Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si vous avez l'habitude de prier, de chercher Dieu, de prendre le temps de lire sa parole ou des ouvrages de spiritualité, vous n'êtes pas toujours à l'aise et éprouvez le besoin de vous former. Pour cela, existent de multiples formules dans les différents diocèses du Sud-Ouest, cours de philosophie, de théologie, d'écriture sainte ou retraite. Mais souvent, cette offre alterne entre formation intellectuelle et retraite, justement. Les Cotopaïs, eux, proposent une formule mixte avec notamment leurs itinéraires spirituels, un temps de formation et de retraite spirituelle. Explication. Cette émission Vivante Église ce matin donc zoom sur les itinéraires spirituels des Cotopaïs avec autour du plateau Pierre Olry. Vous êtes religieux jésuite, bonjour.
Bonjour.
Roselyne Liénard, vous êtes animatrice des Cotopaïs, bonjour.
Bonjour.
Et puis un petit peu plus tard, nous rejoindra Rachel Coignat-Dounou, qui est laïque et qui a suivi l'un de ces itinéraires qui s'appelle « Suivre Jésus au quotidien ». Alors, comme pour chacune de ces émissions, ou presque, on va commencer par ce type d'émission, on va dire, où on présente une famille ou l'une de ses activités. J'aimerais qu'on parle un petit peu des Cotopaïs. On l'a déjà fait à cette antenne, mais éduquer, c'est rabâcher, paraît-il. Comment vous nous présenteriez ces Cotopaïs, Roselyne Liénard? Pour moi, c'est le centre spirituel jésuite dans tout le Sud-Ouest. Est-ce que c'est un bon résumé?
C'est un résumé qui est lui-même résumé dans le titre Cotopaïs, présence et activité ignatienne dans le sud-sud-ouest. Alors le tréma est un petit peu un clin d'œil si vous voulez, mais à l'origine Coto, ça nous rappelle Notre-Dame des Coteaux, où se situait le centre spirituel. C'était un centre dans la mesure où il attirait vers lui des gens qui venaient de toute la région sud-ouest et qui allaient dans ce lieu à l'extérieur de Toulouse, Notre-Dame des Coteaux à Vieille Toulouse. Et on se précipitait d'abord pour bénéficier de certaines retraites, certains week-ends, société et foi, qui avaient beaucoup de succès, parce qu'on y retrouvait des gens comme Baudiquet, ou qui nous faisaient de très beaux week-ends sur l'art, Rembrandt, Chagall, etc. Mais il y avait également des sujets d'actualité ou des sujets, je me souviens d'un week-end sur l'astrophysique, l'information du monde, etc. C'est-à-dire que c'était un centre, effectivement, qui attirait tout le monde vers le centre. Et ce centre, si je puis dire, pour des raisons économiques probablement disparu, et la structure, l'équipe jésuite, laïque et tous ceux qui faisaient partie de cette équipe-là, se sont réinstallés dans Toulouse, où il y avait déjà une communauté, et ont décidé de faire quelque chose d'unique en France, c'est-à-dire d'être le centre, mais qui se déplace maintenant dans la région, en ayant créé quelques antennes. Il y en a une à Bayonne, Pau, Montauban, Perpignan, Villefranche-de-Rouergue, etc. C'est un centre itinérant. C'est-à-dire que le nœud est à Toulouse et les personnes se déplacent, les pères jésuites, les religieuses, les laïcs, pour rejoindre sur certains lieux qui attirent maintenant pas mal de monde et qui bénéficient des formations ou halte, prière.
Alors vous arrosez de fait tout le sud-ouest, hein. Nous on prétend être la radio du sud-ouest, Toulouse, Rodez, Montauban, Agen, Perpignan, le Pays Basque, et alors en fait à chaque fois il y a comme des petits groupes de relais, c'est ça?
Alors,
des
sur
gens
place.
Sur place qui sont...
Voilà, il y a des équipes locales, ce que l'on appelle des équipes locales, petites communautés locales, donc avec en général la structure repose sur des laïcs. Mais les pères jésuites de Toulouse se déplacent et les rejoignent, les religieuses aussi, et des animateurs de l'équipe qui est rattachée au centre même de la rue Montplaisir se déplacent et font des propositions ou bien soutiennent des propositions.
Alors il y a de multiples propositions, j'en ai noté quelques-unes, donc il y a des retraites spirituelles, des formations spirituelles, peut-être c'est à l'image de ces itinéraires dont on va parler, des groupes de réflexion. Comment vous présenteriez peut-être les grandes familles des propositions qui sont faites au Cotopaïs?
Bien, effectivement, donc il y a les exercices qui sont faits, non pas dans ces lieux, dans ces communautés, mais souvent, et c'est la formule nouvelle par rapport aux anciens coteaux, si je puis dire, où on pouvait faire les retraites sur place à Vieille Toulouse. Là, la formule itinérante s'appuie sur les équipes locales qui proposent elles-mêmes des retraites, mais qui se passent en général dans des abbayes, des couvents, des monastères qui sont dans le sud-ouest. Ça peut être Belloc, ça peut être Encalcat, ça peut être...
Le foyer Saint-Pierre à Rodez.
Foyer Saint-Pierre à Rodez en été, au mois de juillet-août. Hein.
Donc ça, c'est les retraites.
Voilà.
Les autres grandes propositions, quelles sont-elles?
Alors, il y a des haltes spirituelles, des itinéraires pour prier avec la parole, découvrir la parole elle-même. Il y a des haltes, quelquefois, dans le week-end, sur place. Des week-ends de retraite, des haltes prières, des semaines de prières accompagnées. Et puis, des propositions pour les jeunes également, hein, sur la parole de Dieu, des pauses. Et d'une façon générale aussi, beaucoup de propositions de formation spirituelle.
Ça s'adresse donc à tout type de public, j'ai vu ça, donc il y avait des formules pour les jeunes, il y a une formule qui s'appelle Oasis, on imagine que c'est un temps pour se poser et prendre le temps peut-être de discerner sur sa vie. Il y a même une formule de carême, En marche avec les saints, voilà, formule de carême de cette année. Il y a des formules pour les familles et pour les couples, de préparation au mariage ou les fameuses soirées Une tisane pour mon couple qu'on annonce parfois à cette antenne, et puis donc des retraites pour tout le monde, y compris pour les religieux et les religieuses. Je le précise parce que ça m'arrive pas souvent de tomber sur ce type de formule. Est-ce que vous voulez en dire un mot, peut-être? C'est comme vous êtes Pierre Olry, comme vous êtes des grands spécialistes du discernement, vous donnez aussi des retraites pour les religieux et les religieuses?
Oui, on accompagne effectivement des religieuses et des religieux. Il y a aussi un certain nombre d'entre nous qui participent à la formation dans les séminaires, donc ils proposent des retraites, que ce soit au niveau des propédeutiques ou au niveau du séminaire. Là, une partie des séminaristes ont fait la semaine dernière une retraite en Calcat avec deux jésuites. Donc c'est pour dire qu'on est un peu, oui, aussi dans ce créneau de l'accompagnement, je dirais, au sens large, et quel que soit le public, mais aussi effectivement des religieux et des religieuses.
Faut-il mettre dans les cotopaïs aussi un peu l'ensemble de la famille ignatienne, ou est-ce que c'est deux choses différentes? J'ai noté entre autres les communautés CVX, le MEJ, le MCC, etc. Est-ce que tout ça c'est un ensemble, ou est-ce que c'est deux choses séparées? Là vraiment c'est le lieu de formation.
C'est une grande famille. Certains membres de la CVX, c'est-à-dire Communauté de vie chrétienne, font partie de l'équipe. Et quelquefois, donc, nous avons, lors des retraites, des membres de la Communauté de vie chrétienne, puisqu'ils sont encouragés à faire des retraites régulières, disons au moins une fois par an. Eh bien, c'est un groupe qui est assez présent, bien représenté, si vous voulez. Mais la famille ignatienne au sens large, nous l'avons retrouvée à Lourdes en 2006, il y avait à peu près 9 ou 10 000 personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloisonnement. Tout le monde est intéressé et invité.
Pierre-Henri.
Oui, je dirais le cœur et effectivement les exercices, mais vous voyez bien que les exercices peuvent être proposés dans des tas de situations différentes. Et donc effectivement, ça nous amène aussi bien à être avec CVX, donc qui est plutôt mouvement de spiritualité, avec le MCC par rapport au monde du travail,
mouvement des cadres
avec
et dirigeants.
Les jeunes, avec le cadre et dirigeants, avec, si vous voulez, d'autres, y compris des mouvements plus engagés au niveau caritatif, etc. C'est-à-dire que la spiritualité ignatienne, c'est un outil pour notre vie de chrétien.
On a fait une émission au début de cette année sur la spiritualité ignatienne, mais comme tout le monde n'écoute pas peut-être tous les jours, j'aimerais quand même que vous nous redisiez en quelques mots ce qui caractérise cette spiritualité, donc qui vient donc de Saint Ignace de Loyola, votre fondateur. Alors j'ai trouvé sur votre site quelques phrases, je vais en citer deux peut-être pour éclairer. Vous dites que c'est une mystique du service, et puis vous dites la chose suivante, la spiritualité ignatienne vise à la conquête de soi et à l'organisation de sa vie de telle sorte qu'aucune décision ne soit prise sous l'influence d'un attachement humain excessif. Alors, ça rend ça assez concret. Comment vous nous résumeriez cette spiritualité?
Eh bien, en tout cas, je dirais que ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est un outil, c'est une pédagogie qui permet effectivement de regarder sa vie. Le matériau, au départ, et c'est comme ça que Ignace l'a découvert, c'est sa propre expérience qu'il observe après sa blessure. Là, il a reçu un boulet lors d'un siège à Pampelune. À partir de son expérience d'inactivité, de lecture Il observe les mouvements intérieurs, ce qui lui fait du bien, ce qui ne lui fait pas de bien, etc. Donc le matériau, on le dit en général lorsqu'on accueille des personnes qui cherchent à faire une démarche ignatienne, c'est observer et sa vie que l'on regarde, il y a une relecture qui se fait, mais en même temps savoir là-dedans ce qui va permettre de grandir, ça passe par le discernement, mais aussi par l'affect. Qu'est-ce qui me touche, me fait du bien et m'attire et m'aide à creuser mon désir de rejoindre Dieu et de me mettre sous son regard et chercher à vivre et de la parole et de quelque chose qui est intérieurement, qui a du goût, ou bien dans l'observation, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est accessible à tous, sans formation extraordinaire. La personne sent que la pédagogie, que ce soit même pour des débutants, est accessible. Et souvent, ce sont des personnes, on en voit lors de formations, retraite ou halte ou parcours, qui disent « moi je viens pour découvrir ». Et qui s'aperçoivent qu'effectivement c'est accessible, sans formation initiale, parce qu'il y a une pédagogie pratique qui permet de grandir.
Alors comment vous expliquez, expliciteriez cette phrase « conquête de soi-même et organisation de sa vie » de telle sorte qu'aucune décision ne soit prise sous l'influence d'un attachement humain excessif, Pierre Valéry?
Je crois que si je prends à l'origine, Ignace, quand il nous invite à la prière, nous dit que toute ma mémoire, mon intelligence et ma volonté soient orientées au service et à la louange de votre divine majesté. Au-delà du...
Il s'adresse à Dieu, en l'occurrence.
Oui, au-delà du vocabulaire de l'époque, si vous voulez. La mémoire, c'est mon passé. Est-ce que je suis libre par rapport à mon passé? D'abord, est-ce que j'en suis conscient? Et en même temps, est-ce que je suis libre? Ensuite, mon intelligence, c'est ici et maintenant, comment je comprends les choses? Et vous voyez combien, dans notre société, et dans toutes les sociétés, nous pouvons être marqués par les manières de voir de notre milieu, de notre pays, de nos communautés, de notre Église. Et du coup, et ma volonté, alors la volonté, le mot en espagnol, c'est quiero, c'est de l'ordre vraiment plus du désir, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que je veux vraiment? Et vous voyez bien que ce que je veux vraiment passe par une prise de conscience de ma mémoire, de la manière dont j'analyse, pour être vraiment plus moi-même, c'est-à-dire être plus au clair avec moi-même, c'est être moi-même pour être vraiment dans un désir, dans une vraie volonté. Et que Jésus, je dirais toujours, Jésus n'arrête pas de traverser des villages, c'est-à-dire des prêt-à-penser, et nous sommes pleins de prêt-à-penser. Quand Bartimée rejette son manteau, c'est aussi tout ce qui m'encombre, ou mes manières de voir,
donc
etc.
Donc c'est un passage de l'Évangile.
Oui, c'est un passage de l'Évangile chez Marc au chapitre 10, où on voit cette espèce de libération de cet homme qui rejette, qui est aveugle, mais qui, ayant rejeté son manteau, c'est-à-dire toutes ses peurs, ses difficultés, je ne sais pas tout ce qu'on peut imaginer, qui est affronté à une foule qui à un moment l'empêche et à d'autres moments lui permet d'accéder à Jésus. Et la rencontre avec Jésus, c'est Jésus lui dit, Jésus n'a aucun désir par rapport à lui, il dit simplement « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est-à-dire il leur envoie son désir. Et son désir alors c'est de voir, et pour lui voir c'est quoi? C'est d'avoir rejeté son manteau, c'est d'être sorti du village, et c'est de regarder l'autre, celui qu'il aime, qu'il veut suivre, c'est Jésus. Et donc là il sort sur le chemin.
Vous aviez un exemple, deux exemples à nous citer, un exemple dans les responsabilités qui ont été les vôtres, puisque vous avez travaillé dans un ICAM, c'est ça?
Oui, enfin, j'étais directeur d'études à l'ICAM de Toulouse.
Voilà, racontez-nous cette histoire.
Alors il s'agit de Frédéric. Alors Frédéric, c'était en dernière année, les étudiants ont un stage à faire, et donc je demandais toujours aux étudiants, mais quel stage justement, quel est ton désir, qu'est-ce que vous voulez faire comme type de stage pour... Une manière aussi déjà de vérifier ce qu'ils voudraient faire par la suite. Donc il voulait faire de la recherche. En principe, à l'ICAM, on ne fait pas de recherche. Et je me suis d'abord opposé à son stage. Et puis finalement, comme il avait insisté, etc., on a fini par accepter avec mon patron qu'il fasse son stage donc chez Framatome à Lyon. Ce stage se passait très bien. Donc à mi-parcours, je vais le voir. Le stage va très bien. Tout se passait bien. Et donc je lui dis, comme je disais, donc ça vous confirme dans votre désir de faire de la recherche. Confirmer son propre choix. Et à ce moment-là, il me dit non. Alors comme il m'avait quand même pas mal mis la pression pour faire son stage, je lui dis « comment ça se fait que vous me disiez non ?» Et alors il me dit « en fait, je rêvais d'être mon grand-père. » C'est-à-dire, par rapport à son passé, il était très admiratif de son grand-père qui devait styler le concours Lépine, et donc il voulait faire comme son grand-père. Et il a pris conscience qu'il n'était pas son grand-père et que finalement le choix qu'il voulait faire, ça est fait un autre choix. D'ailleurs, il n'est pas dans la recherche maintenant, il est parti ailleurs.
Et quel est le rapport avec la spiritualité ignatienne en l'occurrence ? C'est pas un exercice qui l'a aidé à prendre conscience.
C'est-à-dire que moi, suivant le schéma des exercices, je lui ai permis de prendre conscience de sa mémoire et de voir combien sa manière d'envisager son avenir était marquée par sa mémoire, par des affects qui faisaient qu'en fait, comme aurait dit le père Ignace, il n'était pas complètement indifférent et qu'il y avait un attachement affectif fort à son grand-père et il voulait être son grand-père. Et vous voyez bien qu'à un moment ou à un autre, il ne pouvait pas être son grand-père. Et l'histoire se finit hein, 6 mois après, où quand il m'a présenté sa fiancée, qui n'était pas sa grand-mère.
Bonne nouvelle. Vous aviez un autre exemple, Roselyne Liénard, peut-être, qui peut aider à ce que les auditeurs se sentent concernés. C'était une épouse de diacre qui, à la faveur d'une retraite, a vécu aussi comme une forme d'éclairage ou de libération.
Oui, il se trouve que les diacres qui sont en formation, donc, font une retraite que les membres de Koto Pais accompagnent. Et au cours de cette retraite, le couple est invité, justement, parce qu'on n'isole pas le diacre. Normalement, c'est le couple qui s'engage. Mais la femme, finalement, est assez peu interrogée.
Alors le diacre, juste en deux mots, hein, pardon, je précise, c'est donc ces ministres ordonnés qui peuvent être donc des hommes mariés, oui. D'un certain âge, on va dire, d'une certaine maturité, et qui exercent, on va dire, un ministère de la parole et du service dans l'Église, pour
dans
faire
l'église,
très court.
Voilà.
Et dans le monde.
Et dans le monde, pardon. Et dans le monde. Allez-y, pardon, continuez votre exemple.
Pierre. Donc, ces couples font une retraite que nous accompagnons et j'accompagnais pour ma part, donc non pas le diacre, mais l'épouse. Et l'épouse, quelquefois, accepte, parce que les deux sont engagés normalement dans cette aventure de diaconat, elle accepte, mais je voulais l'aider et pointer, vérifier, qu'elle vérifie elle-même en tout cas, qu'elle suivait avec une sorte de liberté intérieure, que c'était son choix. Et elle ne s'était pas réellement posé la question. Elle faisait la retraite parce que son mari la faisait et que ça faisait partie du parcours. Et elle acceptait d'être épouse de diacre parce qu'on l'avait demandé à son mari. Et je lui proposais de se resituer clairement. Justement, au cours d'une retraite, au cours de laquelle on fait appel à un minimum de discernement. Elle était un peu étonnée, mais et intéressée. Donc c'est une retraite de plusieurs jours au cours de laquelle on propose à la personne 2-3 temps de prière à partir de la parole. Évangile, des textes tirés de la Bible.
Et donc elle a vécu donc un moment un éclairage, racontez-nous.
Voilà, et à un moment, donc il y a eu la question que je lui ai demandé de se poser. Comment se situe-t-elle vraiment, elle, dans cet engagement? Est-ce qu'elle le ressent comme une adhésion libre, personnelle? Je lui avais proposé, justement, de méditer l'annonciation. Au mari, il dit oui. Et ça l'a un peu bousculée, mais elle a pris son temps. Ça a pris un jour, deux jours, où elle est revenue un jour épanouie, souriante, en disant... Oui, je me suis approprié ce oui, c'est bien le mien, et j'ai vu son visage s'éclairer, s'illuminer. Elle était comme libérée de quelque chose qui la mettait à sa juste place, à côté du mari et dans l'engagement du couple.
On va faire une première pause musicale, on vous retrouve après pour un coup de zoom donc sur l'un des itinéraires spirituels proposés par les Koto Pais sur l'évangile de Marc. Et puis à la fin de cette émission, on aura Rachel Kouania Dounou qui habite au Mirail, qui a suivi elle un autre parcours qui s'appelle Suivre Jésus au quotidien, qui nous fera part de son expérience.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, zoom sur les itinéraires spirituels des Coteaux Païs. Si vous nous prenez en cours de route autour du plateau, je vous le rappelle, il y a Pierre Olry, qui est religieux jésuite, Roselyne Liénard, qui est animatrice des Coteaux Païs, et un peu plus tard dans l'émission, nous aurons Rachel Kouania-Dounou, laïque, qui a fait un autre itinéraire, l'un de ces itinéraires des Coteaux Païs. Et les Coteaux Païs, c'est donc ce lieu de formation dans le grand sud-ouest de spiritualité ignatienne. Alors, les itinéraires spirituels, il y en a un certain nombre. Je citerai juste peut-être quelques titres. « Il est où le bonheur ?»« Récit de Jacob et ses fils ». Il y a aussi une école de la parole et puis donc un parcours sur l'évangile de Marc intitulé « Évangile de Marc, être disciple ». C'est vous qui le donnez, probablement pas que vous, Pierre Olry. Peut-être avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter l'évangile de Marc pour ceux qui ne connaissent pas bien ? J'ai cru comprendre que c'était le premier évangile qui soit parvenu jusqu'à nous et peut-être aussi le premier rédigé, c'est ça ?
Oui, l'évangile de Marc a été écrit, on pense, hein, mais on est toujours dans des suppositions, à Rome, il est attribué à Marc, qui était un des disciples de Paul et de Barnabé. On pense aussi que Marc a suivi Pierre, et donc son évangile, c'est le premier écrit que nous avons à partir de ce qu'on appelle des logia, c'est-à-dire qu'il y avait du temps de Jésus, juste après Jésus, vous aviez un certain nombre de témoignages qui ont été mis petit à petit par écrit, et après qui ont été reconstitués dans des évangiles, hein, nous avons 4 évangiles, qui disent chacun, à leur manière, une manière de suivre le Christ dans des communautés qui sont différentes et dans des contextes qui sont différents. Et en plus, avec des élaborations différentes, quand vous prenez le dernier évangile, celui de Jean, et qui est beaucoup plus élaboré, qui est déjà très théologique, nous avons une grande différence entre l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, mais tous les 4 veulent dire que Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous.
Hein. Quelles sont les caractéristiques de l'évangile de Jean ? Je ne sais pas, est-ce qu'il a des...
Il est beaucoup plus... si vous voulez, l'évangile de Jean, Jésus est déjà ressuscité.
De Marc, pardon.
Vous me parlez de Jean, oui. Donc, de Marc, alors le premier de Marc, c'est une communauté qui est en pleine persécution, avec des gros problèmes, c'est 64, donc vous voyez, c'est du temps de Néron, et donc c'est la communauté est en pleine persécution, et comment tenir notre foi au milieu de toutes ces persécutions. Et c'est un peu, si vous voulez, le contexte de l'évangile de Marc, qui commence tout de suite par ce premier verset, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Donc on est mis tout de suite en disant, voilà, celui dont on vous a parlé, c'est le fils de Dieu, et il se termine, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Donc et entre les deux, on nous dit, qui est Jésus, comment le suivre, qu'est-ce que fait Jésus, sa mort et sa passion, et en disant maintenant, à vous, aussitôt. Hein, chez Marc, vous avez toujours ce terme, aussitôt, aussitôt, aussitôt. Il y a une espèce, chez Marc, d'immédiateté de la parole et de la mise en acte, si vous voulez, de la parole.
Si vous deviez donc nous faire rentrer un petit peu dans cet itinéraire, alors ces itinéraires durent 6 séances d'une heure, c'est ça, ou
deux heures.
Donc on va évidemment en avoir un résumé. Vous commencez par il y a 2 premières étapes selon vous en fait dans cet évangile de Marc auquel vous essayez d'introduire ceux qui suivent cet itinéraire. C'est donc tout simplement qui est Jésus. Alors expliquez-nous cela.
Alors si vous voulez, pour reprendre ce que vous dites, en fait j'ai distingué 6 étapes dans l'évangile de Marc. Donc ce que j'appelle la première et deuxième étape, c'est Jésus arrive, donc c'est le Messie, très bien, et on nous dit après qu'est-ce que c'est qu'être disciple. Jésus, dès qu'il arrive, se manifeste, il est baptisé, il est tenté et il part pour la mission, hein, c'est nous. Nous sommes nommés fils de Dieu et tenté, c'est pas être dans la toute-puissance, c'est au service pour la mission. Hein? Donc on peut être, je dirais, là aussi, ce premier verset dans 4, verset 4 du premier chapitre, est un résumé aussi de l'évangile. Donc la première, c'est de dire Jésus est le Messie et qu'est-ce qu'être disciple, hein, avec la question aussi, être disciple, c'est aussi déjà la fondation d'une communauté. Quel type d'appartenance, quand je suis le Christ, quel type d'appartenance, à quelle communauté cela m'appelle ? Ensuite, j'ai une étape suivante. Hein,
c'est... Donc, deuxième étape, c'est...
Oui. Alors, la deuxième étape...
Qu'est-ce que c'est qu'être disciple?
Oui, qu'est-ce que c'est qu'être disciple? Jésus appelle ses disciples, mais vous voyez bien que appeler, être appelé, ça veut dire ben, qui est Jésus, et quand il m'appelle à quoi? Quand je suis quelqu'un, ou quand je vais chercher un emploi, je vais essayer de savoir quelle est l'entreprise, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle produit, et du coup, quelle va être ma place là-dedans, et quel type de communauté ça va permettre.
Hein, alors que dit l'évangile de Marc sur ce sujet ?
L'évangile de Marc, si vous voulez, pour les disciples, on voit que les disciples, petit à petit, suivent Jésus. Chacun, ils sont très différents. Hein. Vous avez des bons juifs, des zélotes, mais vous avez aussi des païens, des Matthieu qui est quand même qui est considéré comme un publicain. Et c'est comment faire communauté ensemble autour de Jésus. Et vous voyez que c'est pas facile de répondre tout de suite à votre question en disant quel type de communauté. C'est on va voir que tout autour, tout pendant tout cet évangile, l'incompréhension des disciples. Par rapport à qui est Jésus et qu'est-ce que être Jésus et quelle est la mission. Quand je parlais tout à l'heure de mémoire, intelligence, volonté, vous voyez bien l'importance pour les disciples de relire leur passé, les Écritures, l'Ancien Testament, pour dire vraiment au fond, maintenant, cet homme qui vient, qu'on appelle Jésus, qui se dit fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, essayer de comprendre, et puis après, du coup, de pouvoir effectivement partir en mission. D'où l'importance, si vous voulez ici, de bien de redire, ils vont être amenés, sont des bons juifs en général, ils vont être amenés à réinterpréter les Écritures, ce que Jésus les aide à faire, pour dire, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ce salut proposé, la terre promise, le Messie, hein, jusqu'à la fin du... Même quand Jésus est ressuscité, alors quand est-ce que tu vas restaurer la royauté d'Israël, hein? On voit l'incompréhension des disciples jusqu'au bout de dire, mais qu'est-ce que c'est que faire communauté autour de ça et à quel type de communauté on est appelé?
Vous voulez dire que Jésus leur fait faire des exercices spirituels avant l'heure ?
Ah oui, oui, tous les jours, que le bon Dieu fait, si je puis me permettre.
Alors, il y aurait donc après une quatrième étape.
Donc, il y a cette troisième étape, c'est Jésus, au fond, dans cette étape, on voit, regarde, qu'est-ce que dit et qu'est-ce que fait Jésus ? Donc, viens et vois, hein, on pourrait dire ça sous cette forme-là, hein, donc, c'est intéressant de voir aussi les lieux avec qui il parle, à qui il s'adresse, à quel type de mission il appelle et quel type de communauté il va former. Et donc, la quatrième étape dont vous me parlez, c'est très intéressant, la quatrième étape. Elle commence par la guérison de Bethsaïde. Hein, si vous vous rappelez, chez Marc, au chapitre 8, Jésus est obligé de passer deux fois cet homme pour qu'il arrive à voir. La première fois, il dit, je vois des gens, mais c'est comme si c'était des arbres qui marchaient. Et Jésus dit, mon miracle, alors hop, une couche de plus pour que le type voit bien. Et après, vous avez trois annonces de la Passion, et vous avez après la guérison de Bartimée, qui a rejeté, je disais tout à l'heure, son manteau, qui est sorti du village et qui va suivre Jésus. Eh bien, entre ces deux guérisons d'aveugles, vous avez les trois annonces de la Passion. Et dans ces trois annonces de la Passion, vous en avez d'abord la première, c'est ce qu'on appelle la confession de Césarée, hein, où Jésus demande aux disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi dans la presse people de l'époque ? Hein? Et alors on va dire tu es le Messie, tu es le prophète, Élie ou je sais pas quoi. Après il dit pour vous qui suis-je, et il dit à ce moment-là Pierre dit c'est siècle avant, il dit tu es le fils de Dieu, et il s'en fait entendre, et toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la troisième étape, c'est Jésus dit moi je vais vous dire qui je suis, et là Pierre lui dit ah non, pas question, moi je ne veux pas que tu souffres. Et il dit, je ne suis pas pour ça. Et Jésus lui dit, maintenant, arrière Satan, suis-moi. Donc, c'est la première annonce de la Passion.
Donc quatrième étape, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Jésus...
Il y a trois annonces de la Passion.
Explicite en fait, oui, quel est le...
Il dit qui il est, il va dire qu'est-ce que c'est que la communauté, il va dire qu'est-ce que c'est que la mission. Donc dans la première étape dont je vous parle, la confession de Césarée, c'est qui est Jésus. Donc, et à chaque fois à partir de l'annonce de sa Passion, avec la difficulté des disciples à dire « Nous, on va suivre ce gars-là qui va être crucifié et mourir. » Non, ce n'est pas le projet. Nous sommes pour la restauration du royaume d'Israël. Ensuite, la deuxième annonce de la Passion, c'est toute la vie communautaire. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la vie de communauté? Vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Pour qui? Pourquoi? Comment? Et la troisième étape, de la troisième annonce de la Passion, c'est Madame Zébédée qui vient voir Jésus et qui dit mon fils aîné, Premier ministre, et le second, ministre de l'Intérieur. Et Jésus lui dit, vous n'avez rien compris, je ne vous demande pas, c'est de boire la coupe comme moi, donc passer par la mort et la résurrection, et en même temps, vous êtes appelé à servir. Il n'est pas des questions de pouvoir. Donc vous voyez, dans ces trois annonces de la Passion, d'abord, qui est Jésus? Toutes les questions que ça nous pose, nous, en permanence. Qu'est-ce que c'est qu'être, faire communauté autour du Christ? Et en même temps, la mission, c'est le service, autant à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur du monde. On est donc pas donc ça, c'est la quatrième étape.
Les deux dernières étapes, donc la cinquième, la sixième, c'est donc l'exemple que Jésus donne de ce que c'est que, enfin, voilà, que d'être le Fils de Dieu. Oui. Donc, et après, l'appel qu'il nous lance à chacun.
La cinquième étape, d'abord, c'est on est dans les travaux pratiques. Eh bien, Jésus, à Jérusalem, est opposé à l'establishment, donc aux juifs bien pensants, entre guillemets. Il est opposé au pouvoir, je dirais, laïque, on dirait maintenant, enfin, je veux dire, et il est vraiment un signe de contradiction. Et la sixième étape, effectivement, c'est l'échec de la mission, l'échec humain de la mission de Jésus. Jésus est arrêté, est tué, et il disparaît. Et il va réapparaître après, mais il va réapparaître, si vous voulez, hein, on voit chez Marc, les récits de résurrection sont beaucoup moins glorieux que dans les autres évangiles. Hein. Certains croient, les gens ont peur, etc. Et Jésus leur dit, maintenant, allez, hein, vous avez vu le parcours, à vous d'y aller.
Donc ça, c'est un parcours à suivre. Je le dis dès maintenant que cet itinéraire spirituel, je vais y arriver, Évangile de Marc, être disciple, donc a commencé le 10 janvier dernier, 6 séances jusqu'au 4 avril, et on peut prendre ça en cours de route. Peut-être, avant qu'on fasse une deuxième pause, pouvez-vous nous dire à qui s'adressent ces itinéraires spirituels? Y a-t-il des prérequis? Faut-il être savant? Parce que présenté aussi rapidement, ça peut être intimidant. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Pour ma part, je dirais que ça s'adresse absolument à tout le monde. Nous le voyons, ce n'est pas une position théorique. Quand je le dis, c'est parce que nous le voyons. Nous avons des gens de toutes les générations. Nous avons des gens qui sont dans la société à tout niveau. Et il y a une quête. Et ça, la quête est commune, quelle que soit la formation. Et moi, j'ai vu la dernière fois que nous avons proposé une formation qui s'intitulait « Grandir dans la vie spirituelle », une jeune personne qui, d'une part, ne savait rien d'Ignace de Loyola, ni de la spiritualité ignatienne, à côté d'autres personnes dans le groupe qui avaient fait X retraites ignatiennes et qui avaient l'impression de tout savoir. Or, dans le parcours proposé, chacun, on le sentait, était en croissance spirituelle. Et le souvenir que j'en ai qui était remarquable, c'est que la jeune personne qui ne savait rien est celle qui, à la fin du parcours, c'était 4 soirées de 2 heures, là aussi, est venue nous voir avec un peu de timidité. Nous étions 2 pour proposer cette formation, en demandant, mais à qui dois-je m'adresser pour faire une retraite spirituelle ignatienne? Ça signifie que dans ce parcours, tout le monde bouge, quel que soit à l'origine le bagage, la connaissance, ça passe par ailleurs que la connaissance ou la formation.
Ouais. Pierre Olry, quand vous emmenez les gens dans ce parcours-là, donc de l'évangile de Marc, quel est le but en fait d'un tel itinéraire au...
Moi, je vais pas faire un cours d'exégèse. Je fais ma présentation, si vous voulez, justement suivant les exercices spirituels. Et quand je vous prenais l'exemple entre Bethsaïde et l'aveugle de Jéricho, Bartimée, c'est pour montrer comment aussi, là, il y a tout un chemin qui se fait pour les gens quand ils viennent avec des difficultés de voir. Je peux vous dire, par rapport à Bethsaïde, ça c'est une histoire, une jeune femme qui cherchait à se marier, qui va voir, j'ai envie de dire, elle allait au supermarché au garçon, au marché au super garçon, hein, et à un moment ou un autre, ça marchait pas. Et quand je lui ai proposé l'aveugle de Bethsaïde, et que la première fois où il est dit, et je vois des gens comme si c'était des hommes qui marchaient, c'était des arbres qui marchaient, elle m'a dit, ça c'est moi. C'est-à-dire qu'elle a pris tout d'un coup conscience que elle, dans sa relation avec les garçons, elle cherchait une image. Et donc moi, mon but effectivement en proposant ce type de parcours, c'est vraiment que ça rejoigne les gens dans leur vie au quotidien. Je ne suis pas là pour faire un cours, je dirais. Je ne suis pas d'ailleurs spécialiste du tout de ce genre de... Je ne suis pas exégète de formation, même si ça m'intéresse, mais je veux dire... Et donc plutôt que les gens, cette parole leur parle dans le quotidien. Enfin, c'est notre problème, je pense que Roselyne sera d'accord avec
moi. C'est votre problème ou c'est votre préoccupation ?
Notre préoccupation, oui.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver justement Rachel Poignadounou, qui est donc une laïque, mère de famille, qui habite au Mirail, qui a suivi donc un autre itinéraire qui s'appelle Suivre Jésus au quotidien et qui veut nous expliquer, elle, ce qui l'a touché, ce qui l'a rejoint.
Dans le Grand Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, donc Zoom sur les itinéraires spirituels des Cotopaïs avec autour du plateau, pour rappel, Pierre Olry qui est religieux jésuite, Roselyne Liénard qui est animatrice des Cotopaïs et Rachel Coignadounou qui est donc laïque et mère de famille et qui a suivi un itinéraire spirituel intitulé lui « Suivre Jésus au quotidien ». Bonjour Rachel.
Bonjour.
Donc, vous avez eu la gentillesse d'accepter de venir au micro de Vivante Église ce matin. Donc, vous êtes, je le disais, vous êtes une laïque, mère de famille. Vous habitez au Mirail, donc près de Toulouse, quartier dit ou réputé être un petit peu compliqué. Et donc, vous avez suivi cet itinéraire. Alors, peut-être on va demander rapidement à Pierre Olry, pour commencer, de nous présenter ce qu'est cet itinéraire « Suivre Jésus au quotidien ». Et puis, je vous laisserai compléter derrière, Rachel.
D'accord.
Donc suivre Jésus au quotidien, dans la tradition ignatienne, vous avez deux types de prières, l'oraison à partir de la parole de Dieu, et puis à ce qu'on appelle la relecture de vie ou l'examen dans la tradition religieuse, c'est-à-dire comment Dieu me parle dans ma vie au quotidien. Et si vous voulez, la proposition de suivre Jésus au quotidien s'articule sur ces deux types de prières. Les personnes ont un itinéraire proposé suivant les exercices. Ils ont à la fois des textes de la Bible qui leur sont proposés, d'étape en étape, et également, eh bien, ils ont leur vie au quotidien. Et c'est au croisement de ces deux paroles, la parole de Dieu et la parole, je dirais, de ma propre vie, que les gens vont faire un itinéraire spirituel, c'est-à-dire, eh bien, comment Dieu est présent là, tous les jours, à tout instant, dans ma vie.
Alors quand on a préparé l'émission, Rachel, vous m'avez expliqué donc vous réunissiez tous les 15 jours, voilà, donc c'était des réunions en petits groupes. Vous étiez donné à chaque fois donc un plan à suivre, une grâce à demander, un texte à lire et parfois même aussi un enseignement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns des thèmes qui sont abordés dans cet itinéraire spirituel ?
Les thèmes, bon, on en avait un à chaque rencontre. Le premier, par exemple, c'était accueillir ma vie pour y goûter davantage. Donc là, il s'agissait en gros d'être en alerte sur ses sens, accueillir sa vie à partir de la lumière, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche. En gros, on utilisait les sens pour accueillir la vie et pouvoir se réjouir encore. De ce qu'on regarde, de ce qu'on observe, de ce qu'on touche au quotidien. En gros, d'avoir les sens éveillés. Voilà. Alors, parce qu'effectivement, le risque de s'endormir et de ne plus réaliser tout ça.
Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Vous me disiez qu'après, l'un des thèmes, c'était voir dans sa vie les choses qui nous ont blessés ou les blessures qu'on a pu causer à autrui.
Oui, c'était aussi l'un des thèmes où il s'agissait plus précisément de présenter ses blessures à Jésus. Voilà, de présenter ses blessures. Donc, pour ça, il fallait déjà accepter de les regarder. En fait, c'était laisser Jésus regarder ma vie blessée. Voilà. Ça veut dire déjà que pour soi, on était amené à regarder ses blessures parce qu'il y en a certainement sur lesquelles on préfère fermer les yeux, ne pas regarder d'une façon ou d'une autre. Donc, il s'agissait de la regarder, de la accepter, de l'accueillir et de le présenter à Jésus. Voilà, cette part de cette vie blessée, oui.
Alors ensuite...
Et là, par exemple, pour ce thème, la grâce à demander, c'était accueillir le regard miséricordieux et libérateur de Dieu sur mon histoire de mal et de souffrance.
Alors, il y a quelque chose, vous, lors de ce parcours qui vous a particulièrement percuté, en tout cas, c'est ce que vous m'avez partagé. Une fois, il vous était proposé donc une centaine d'images, d'en choisir quelques-unes là-dedans. Vous en avez donc choisi plusieurs. Et cela vous a aidé, en fait, à prendre conscience de ce que vous viviez. Et ensuite, il y a un texte de l'Écriture qui vous a particulièrement frappé et rejoint. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ?
Oui, en effet, on avait effectivement plus d'une centaine d'images d'horizons divers et on nous a proposé de récupérer tout ce qu'on voulait comme image. Et c'est vrai que j'en suis sortie avec 5. Du coup, c'est vrai que mon panneau était assez vide. Et parmi, effectivement, une main, une empreinte d'ailleurs de main, toute desséchée, où finalement je me reconnaissais presque. C'est de me sentir aussi fragile. Et pour la même période, nous avons eu le texte de Jésus qui arrive chez Simon et qui et la belle-mère est malade. Et c'était, ils arrivent dans la maison, bon, je vais pas vous dire le texte exactement, mais ils arrivent à la maison et c'est là qu'on lui dit que la belle-mère est malade. Et il va... Et il la lève, il la fit lever en la prenant par la main. Donc, pour moi, c'était un accueil du fait qu'on me prenait par cette main si légère, si frêle, mais qui finalement n'avait pas besoin de force pour se lever. Et dans ce texte, il la prend, il la lève, elle se lève et elle a fait à manger. ce n'est pas, presque pas le temps de passer par la convalescence ou autre, mais immédiatement, elle était debout. Et pour moi, voilà, ça m'a fait lever, ça m'a... Oui, j'ai accueilli pleinement ces textes qui me mettaient en route rapidement et immédiatement. Voilà, pour moi, ça a été une grâce, ce texte, par exemple. Pourtant qu'on a déjà lu et relu plusieurs fois et entendu. Donc, cette fois-là, bon, ça a été mon texte de la période.
Alors, on verra peut-être les suites que ça a eues. Pierre Olry, si vous deviez mettre en perspective ce témoignage de Rachel Kouania Dounou, c'est vrai que, enfin, pour ceux, je le disais en introduction de l'émission, hein, qui ont l'habitude de prier, de chercher Dieu, de lire la parole de Dieu, là, on a l'impression qu'en fait, parce qu'on se pose, qu'on est dans un contexte particulier, tout d'un coup, une parole sur laquelle on peut glisser chaque dimanche ou chaque jour, tout d'un coup, elle devient mienne.
Alors,
est-ce qu'il faut comme ça enfin, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle prend sens,
c'est là. Je crois que c'est les circonstances de nos vies qui nous ouvrent les oreilles, si j'ose dire. Moi, ce qui me frappe en écoutant, c'est que plus on écoute des gens avec leurs difficultés, plus on devient aussi sensible à ce qu'ils disent et aux situations. Pour prendre un exemple, par exemple, sur la question de... Moi, ça m'avait beaucoup frappé sur la question des fausses couches. Je suis une famille très nombreuse, donc on a entendu parler de fausses couches. J'ai plus de 50 cousins germains. Donc on avait des fausses couches. Et pour moi, j'avais entendu parler. Et après, en écoutant des femmes qui avaient vécu ça, et avec la souffrance que ça avait suscité chez elles, de dire maintenant, quand on me parle de ça, ben, je fais attention. Ça veut dire, et je crois que c'est les circonstances de la vie qui nous amènent à être plus sensibles et je dirais à développer nos synapses pour être plus en contact avec les autres.
Roselyne Liénard, vous voulez ajouter quelque chose rapidement ?
Mais moi je dirais que là on a le témoignage de ce que l'on nomme souvent la parole vivante. Elle est tellement vivante qu'elle me rejoint dans ma vie à un moment donné et elle prend sens pour moi, elle me fait bouger, elle me met en avant. Il y a une puissance dans cette parole, là on en a la démonstration et nous l'avons vécu, enfin moi je l'ai vécu plusieurs fois au cours de mes retraites personnelles. D'un seul coup, une parole est pour moi et me met en route.
Alors Rachel Kouania Dounou, il y a eu des suites à cette parole qui vous a rejoint, qui vous a percuté. Vous vouliez donner deux illustrations. La première, c'est que vous sentiez comme cette main desséchée parce que, entre autres, vous aviez des problèmes matériels, des enfants en études et des difficultés peut-être financières. Et ça vous a donné force et courage, si j'ai bien compris. Racontez-nous ce premier fruit.
Mais déjà, ce fruit, c'est... Tout simplement que dans la période, on m'avait proposé d'accueillir le frère Aloïs.
Alors le frère Aloïs, c'est donc le successeur du frère Roger, fondateur de la communauté Thésée.
Oui, et bon, c'est vrai, je ne le connaissais pas spécialement, étant donné que je n'ai pas passé mon adolescence ici en France. Vous dites, les jeunes, parfois, ils y vont, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Donc je connaissais, pour moi, c'était quelqu'un... Et rien d'autre. Bon, moi déjà étant au Mirail, avec tous les complexes que je peux faire d'y vivre, j'avais presque pas répondu à cette demande. Mais d'être pendant la retraite, qu'on ait cette possibilité, oui, de se lever, de pas être obligé de porter ses problèmes tous les jours, tous les matins en se levant, j'ai accepté de l'accueillir et j'ai pu le vivre cet accueil. Pour moi, en pleine grâce. Et c'est une période aussi où on a effectivement d'autres textes, notamment où Jésus qui vient demeurer chez toi. Honnêtement, je l'ai vécu comme tel. Et pour ça, de chez moi, devenait complètement différent. Et c'est vrai qu'en partageant avec les autres, je me disais, dommage que ce soit un endroit où je ne peux pas crier à tout le monde dehors de se retrouver chez moi ce soir. Tellement j'étais heureuse. Et je pense, pourtant le message au départ, je ne l'avais pas spécialement accueilli de façon extraordinaire, mais je peux dire que de l'avoir vécu après, et certainement de pouvoir le vivre avec la retraite, parce qu'en plus c'était encore en cours, ça m'a permis de le vivre comme une pleine grâce, d'être contente, et aujourd'hui encore, je suis sûre que je garde de cette joie en moi.
Eh ben, merci beaucoup, Rachel Coignadounou, d'être venue au micro de Vivante Église pour donner votre témoignage. Quelques informations pratiques à la fin de cette émission. Si vous voulez donc contacter les Coteaux Païs pour suivre un itinéraire spirituel, eh bien, tout simplement, vous tapez Coteaux Païs, hein, c'est www.coteauxpais.net www.coteauxpais.net, et puis un numéro de téléphone, le 05 62 71 65 30, 05 62 71 65 30, pardon, le site internet, c'est donc coteaux-pais sans itrema.net, coteaux-pais sans itrema.net. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.